Le monde des affaires et de la politique réuni pour le Forum économique mondial.
Le Forum de Davos a donc fermé ses portes hier. 2500 leaders politiques et économiques ont débattu des meilleurs moyens de relancer la croissance.
Money, power, cash, cash, party, cash. Evolution, revolution.
Et non, vous n'êtes pas au Forum économique mondial, mais en direct du Forum social mondial de Tunis 2013. React, connect. Les Échos de Tunis, c'est une série d'émissions avec l'association ATTAC.
Bonjour à tous, vous êtes bien dans Les Échos de Tunis, une série d'émissions réalisée à l'occasion du Forum social mondial de Tunis. Alors là, c'est la première partie d'une série de deux émissions sur les médias libres. On réalise cette émission à partir de rencontres faites lors du Forum mondial des médias libres. Alors pour cette émission, il y a aussi Lison qui est avec nous. Bonjour Lison.
Bonjour Pierre. Bonjour à tous.
Alors, de quoi on va parler dans cette toute première émission, Lison ?
Cette émission sera consacrée aux perspectives et aux problématiques des médias, non seulement en Tunisie, mais aussi en Afrique et partout dans le monde. Et ça sera également l'occasion de revenir sur ce qu'est un média libre.
Alors on commence par quoi dans cette émission qui durera une vingtaine de minutes ?
Alors je vous invite à partir à la rencontre de Ali, un journaliste militant qu'on a rencontré à la radio du Forum Social Mondial.
Avec Ali, on aborde la question des médias en Tunisie et notamment des médias dans la révolution tunisienne. A tout de suite.
Bonjour Ali, je te rencontre là dans l'espace, encore dans l'espace média du Forum Social Mondial. Mmh. Alors toi tu es très actif sur la radio du Forum Social Mondial qui s'appelle Radio Forum. Vous avez même pour l'occasion un créneau hertzien pour le diffuser, donc vous diffusez sur la ville de Tunis, c'est ça ?
Oui, on diffuse sur la ville de Tunis.
Et toi, tu es actif dans une radio particulière en Tunisie ?
Oui, je suis créateur d'une radio qui s'appelle KFM sur Kasserine, qui diffuse encore sur Internet. Mais on a fabriqué notre émetteur, notre antenne, et on a commencé à diffuser dans une petite couverture de 2000 mètres. Et voilà, maintenant, on est sur le point d'installer notre nouveau émetteur et une antenne qu'on a eue pour pouvoir diffuser et couvrir plus d'espace, ça sera pour presque 25 km.
Alors si je comprends bien, cette radio qui est la tienne a été créée après la révolution tunisienne, oui. Après le départ de Ben Ali. Qu'est-ce qu'il en était avant des radios libres ?
C'était avant de 2 mois. C'était avec les premiers mouvements à Sidi Bouzid. On a décidé d'avoir notre propre média, tant que le média tunisien, qui était à l'époque de Ben Ali, il a décrit les jeunes tunisiens avec des mots non convenables, comme des bandits, et des terroristes. Ils étaient le contraire, ils étaient en train de défendre leurs droits. Donc on a décidé de créer notre propre média. Et c'était une page sur Facebook et on a commencé la première diffusion sur Internet le 7 janvier 2011.
Mmh. Ouais. Et tu peux revenir sur cette petite période. Du coup, les médias ont eu un rôle dans la chute du régime ?
Bon, je crois que les gens, les jeunes surtout tunisiens, ils n'avaient pas peut-être ils n'avaient pas le temps d'aller en ligne ou bien de voir ce qui se passe sur les médias parce que je crois que tous les Tunisiens étaient dans la rue défendre leurs droits, mais je crois qu'ils ont joué le rôle, les médias libres surtout, ils ont joué un rôle important à passer l'information à l'extérieur de Tunisie plus que l'intérieur, voilà.
Et maintenant, si on regarde la situation tunisienne, ces radios associatives, elles se multiplient. Mmh. Et est-ce qu'il y a un nouvel élan des médias libres en général ?
La chose qu'on est vraiment heureux de l'avoir, c'est l'STRL, le syndicat tunisien des radios libres, qui était là depuis 2005. Mais il n'avait pas un bon climat et un climat favorable pour travailler ou pour défendre, vu que tout le monde en connaît l'époque de Ben Ali. Mais après la révolution, le syndicat, il nous défend vraiment fortement. Il fait déjà des efforts énormes pour nous aider, pour aider les médias libres et les nouvelles radios, surtout sur le web. Et il faut bien dire que le syndicat a aidé plus que la moitié ou bien la majorité de ces radios-là à installer des studios, à avoir du matériel, et voilà. Donc c'est vraiment bien et je suis vraiment très heureux d'avoir ce syndicat-là en Tunisie aujourd'hui.
Là, on est dans le cadre du Forum social mondial de Tunis. Qu'est-ce que tu attends, toi, de ce Forum social mondial ?
Pour le Forum social mondial, j'attends beaucoup de choses, vraiment, honnêtement. La première chose, je parle de la Tunisie. La Tunisie, les médias en Tunisie, surtout les médias nationaux, ils donnent une image très mauvaise de la Tunisie quand ils passent des informations et ils font, comment dirais-je, c'est comme un buzz pour la situation mauvaise de la Tunisie. Ils n'essayent jamais de faire passer des choses, du bien du Tunisie. La Tunisie, elle est toujours belle, elle est toujours comme elle était avant. Elle est toujours belle, il y a le soleil, il y a tout. Et la sécurité, je crois qu'il y en a aussi. Et le forum, je crois qu'il va prouver que les gens qui vont venir en Tunisie, les visiteurs, ils vont être toujours en sécurité et la Tunisie vaut bien le coup de venir pour la visiter.
Une belle invitation à découvrir, à visiter la Tunisie, vous l'aurez compris. Et là, c'est un petit peu ce qu'on fait dans le cadre de cette émission qui s'appelle Les Échos de Tunis. On s'intéresse aux médias libres dans le cadre du Forum social mondial.
Après cette entrevue intéressante sur les médias en Tunisie, les médias et la révolution tunisienne, on rencontre Saba de Reporters Citoyens pour une première approche des médias libres.
Quelque part, je dirais presque que c'est un synonyme, le média, il se doit d'être libre avant tout. Alors pourquoi on revient dessus? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation par exemple en France, bon un peu moins qu'ailleurs quand même, de la liberté de la presse, avec tous les groupes industriels et qui, les patrons de presse qui prennent le pouvoir sur les groupes de presse, que ce soit en télé, en radio ou en presse écrite, on a vu qu'il y avait de l'autocensure un petit peu. Ensuite, les citoyens n'ont pas toujours accès à l'information, ou alors c'est une information qui est répétée. On entend souvent la même chose à la télé, à la radio, dans la presse, et donc on en a un peu assez de parler toujours des mêmes choses. Et le média citoyen est libre, et aussi celui qui va proposer des sujets, des reportages décalés qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont pas pour faire de l'argent ou pour faire vendre le support. Donc qu'on parle de sujets pertinents sans intérêt économique derrière.
Vous êtes toujours dans les Échos de Tunis. On retourne avec Saba qui nous présente le projet qu'elle mène au Forum social mondial de Tunis.
Bonjour Saba, je te croise là en cette troisième journée du Forum social mondial. Le soleil est en train de se coucher, la fin de la journée approche. Et toi, tu fais partie de Reporters Citoyens, qui est une association française. Est-ce que tu peux revenir un petit peu plus ?
Oui, alors moi je suis journaliste, la coordinatrice du projet Reporters Citoyens, qui regroupe en fait l'école des métiers de l'information et le site de la télé libre. Donc on est autour d'un projet qui s'adresse à des jeunes de quartiers populaires de région parisienne, qui n'ont pas accès à beaucoup d'informations et qui aimeraient être formés au journalisme citoyen, multimédia, écriture et vidéo, pour pouvoir avoir des outils de citoyenneté, s'exprimer. Et parce qu'on s'est rendu compte que 75% des journalistes étaient issus de classes sociales privilégiées. C'est vrai qu'on sait que l'image de la presse dans les banlieues est très mauvaise, très négative, parce qu'il y a eu plusieurs incidents qui sont souvent dus à une ignorance des deux côtés. Et ouvrir la porte d'accès et communiquer plutôt que de critiquer, ça nous semblait être une bonne solution pour ouvrir le pont entre les citoyens, peut-être qui ont plus accès facilement à la communication et à l'information, et ces jeunes qui étaient plutôt isolés et qui ont envie de sortir, d'aller voir ailleurs, et ça fait vraiment une rencontre très très riche.
Pour clôturer cette première partie d'émission sur les médias libres, on part à la rencontre de Diana Senghor, directrice de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest.
Bonjour Diana Senghor, vous êtes directrice de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, l'IPAO, qui est une ONG ouest-africaine d'appui au pluralisme médiatique. Vous êtes aussi beaucoup impliquée dans l'organisation de ce Forum social mondial. Pourquoi votre association, qui appuie le pluralisme médiatique, est impliquée sur ce mouvement altermondialiste ?
Bien, je crois que la communication, c'est une question qui est au cœur de la globalisation. Alors, une des questions peut-être au sein du Forum social mondial, c'est que la communication, elle n'est pas reconnue comme un enjeu important. Il y a une perception de la communication qui est un petit peu instrumentalisée. Bon, comment est-ce que on couvre les activités du Forum social? Plutôt que la communication, quel est son rôle dans les processus de démocratisation, dans l'instauration de la justice sociale. Et donc c'était important qu'une initiative soit prise, donc depuis 3 ans, sur les médias libres. Alors médias libres, je pense même qu'on n'est pas tout à fait orthodoxe en parlant de médias libres. Parce que les médias libres, c'est pas seulement les médias alternatifs. Les médias libres, ce sont les médias qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent au droit à la communication. Et donc ça implique les médias alternatifs, bien sûr. Et quand on dit médias alternatifs, généralement on pense radio communautaire. Les médias alternatifs, c'est pas seulement la radio communautaire, c'est de plus en plus aussi les médias sociaux et le développement du journalisme citoyen. Mais en dehors de ça, ces médias-là jouent un rôle absolument crucial dans la démocratie à la base. On a de très très bons exemples dans les pays ouest africains, sahéliens en particulier. Sur la dénonciation de la corruption, bref, sur en général, disons, la participation des citoyens à l'échelle locale à l'élaboration, au contrôle des politiques locales. Mais la présence de médias alternatifs, si elle est importante, n'est pas suffisante. Ça veut dire la majorité du public, des citoyens, il est quand même informé par les grands médias. Et je crois que ce qui se dit en ce moment, c'est qu'il faut travailler aussi en direction des grands médias. Alors, il ne s'agit pas de les transformer en organismes philanthropiques, mais il s'agit au moins d'appuyer sur certains petits leviers à l'intérieur de ces médias.
Alors ce matin, j'étais à un atelier avec vous autour de l'élaboration d'une charte mondiale des médias libres qui regroupe des acteurs de ces médias dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions du monde, avec des contextes très particuliers. Par exemple, je me suis rendu compte qu'en France, la question de la publicité par ceux qui se revendiquent des médias libres était quelque chose d'abordé de façon très critique concernant la mainmise que peuvent avoir les annonceurs sur les lignes éditoriales ou l'influence qu'ils peuvent avoir. De l'autre côté, par exemple, au Sénégal, les radios associatives se battent pour avoir le droit de diffuser de la publicité, par exemple. Donc on sent quelques tensions. Comment ça se passe dans l'ensemble, ce travail entre acteurs de différentes régions, de différents pays, sur ce concept de médias libres, tandis qu'il y a des contextes locaux très différents?
Je crois que, l'exemple que vous donnez, c'est un peu difficile là de voir des pistes de collaboration, parce que là, c'est des problématiques absolument différentes dans les pays, à propos de la publicité. Dans les pays développés, c'est vrai que les médias vivent essentiellement, majoritairement, de la publicité, et c'est la principale source de leur dépendance. C'est absolument pas le cas en Afrique de l'Ouest, d'abord parce que il y a peu d'annonceurs, et donc l'enjeu, c'est comment survivre pour les médias, c'est comment survivre en tant que média de la manière la plus indépendante possible. Et donc, je crois que c'est pas demain la veille que la publicité va compromettre l'indépendance des médias. Les facteurs de dépendance des médias, ils sont ailleurs, ils sont essentiellement dans la politique, voilà. Que ce soit les gouvernements, que ce soit les partis politiques au pouvoir ou pas. Il y a juridiquement la possibilité d'accéder à des sources de financement publicitaire dans certaines limites, un certain pourcentage. Un certain temps d'antenne peut être consacré, mais pas au-delà. Maintenant, sur d'autres questions, c'est vrai qu'il y a des passerelles non seulement possibles, mais elles sont nécessaires sur différents enjeux du droit à la communication. Par exemple, les médias communautaires sont reconnus en Afrique de l'Ouest. Ils ne sont pas reconnus dans la plupart des pays du Maghreb. Et pourtant, les contextes ne sont pas si différents. là, l'échange d'expérience, il est crucial. À quoi sert une radio communautaire? Le concept même de radio communautaire, qu'il soit compris ici. Ici, le changement social a été beaucoup soutenu par les médias sociaux. C'est quelque chose qui est peu utilisé en Afrique de l'Ouest. Donc, je pense que là, il y a des échanges sur le type de médias à utiliser et comment, quand le cadre juridique ne l'autorise pas, comment on peut plaider pour ça. On a à apprendre de l'expérience d'une lutte qui aboutit d'un continent à l'autre, d'une région à l'autre, bon, d'un pays à l'autre, ça on le savait pour l'Afrique de l'Ouest. Mais là, je pense que ce qui est important, c'est qu'on a des choses à apprendre en Amérique latine, on a peut-être des choses à apprendre dans les pays asiatiques qui sont moins présents. Donc il y a des références là, au sud.
Votre association, l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, est sur le créneau du pluralisme médiatique. Ça aurait aussi pu être une association qui est, par exemple, sur la liberté de la presse. Pourquoi pluralisme médiatique? En quoi ça fait sens dans le paysage médiatique aujourd'hui de mettre l'accent sur ce pluralisme?
Ben, c'est pas seulement le pluralisme de l'information, hein, c'est plus la démocratisation de la communication. Pluralisme de l'information, ça veut dire simplement qu'il y ait un cadre qui garantisse la circulation de l'information. Pluralisme aussi, ça veut dire c'est la diversité des sources et la diversité des supports aussi, donc, la pluralité des médias. Panos maintenant est allé au-delà avec la démocratisation de la communication. La communication, c'est plus large que l'information. La communication, c'est pas seulement une information verticale, quel que soit le sens de cette verticalité. C'est pas, bien sûr, seulement l'information de gens qui savent vers d'autres qui savent pas, mais c'est aussi faire remonter l'information. Mais on est tout, faire remonter l'information, par exemple, les radios communautaires font remonter la voix des marginalisés. Ça, c'est l'information verticale. La communication, c'est autre chose. La communication, c'est un échange, c'est un processus. Bon. Et donc, c'est ça qu'on essaie de soutenir. Maintenant, on parle de démocratisation de la communication. Ça veut dire que qui communique? Ben, ceux qui communiquent, c'est ceux qui ont accès à l'information. Et donc, tout le monde n'a pas accès à l'information. La démocratisation de la communication, ça veut dire qu'il y ait d'une part des cadres juridiques qui permettent aux citoyens d'accéder à l'information, aux médias qui sont les médias du plus grand nombre, les radios communautaires, d'être reconnues en tant que telles. Et elles sont reconnues dans la plupart des pays de la région, sauf un, le Nigeria, de fait. Mais une fois reconnues, il faut qu'elles exercent réellement en tant que radio communautaire. Et ce n'est pas encore le cas, parce qu'il y a des tas d'obstacles juridiques à ça. Les zones marginalisées économiquement sont aussi marginalisées médiatiquement parce que des radios associatives ne s'y créent pas. Donc là, il y a un travail à faire sur l'équilibre de l'information à l'intérieur du tiers secteur de la communication. La liberté d'expression, c'est aussi un enjeu du droit à la communication parmi d'autres. Enjeux. L'information, pour qu'une information soit réellement pluraliste, c'est l'investigation. Les journalistes, y compris dans les grands médias, privilégient le commentaire. Et donc finalement, c'est un cercle vicieux. On répète toujours la même chose. Et souvent d'ailleurs, les journalistes se trouvent à la remorque de l'opinion. Donc ce ne sont pas eux qui façonnent les opinions, qui éclairent les opinions, mais ils sont à la remorque. Et surtout sur les questions sociales sensibles. Donc plutôt que d'être à la remorque de l'opinion, leur rôle, c'est de documenter les opinions. Et donc pour ça, il faut faire des investigations. Et donc ça, c'est un deuxième enjeu de l'information pluraliste. Donc un, les voix des plus marginalisées. Deux, la documentation des points de vue.
C'en est fini pour cette première émission sur les médias libres. On retrouvera la deuxième partie dans notre série d'émissions Les Échos de Tunis. Dans cette prochaine émission, on rencontrera d'autres acteurs des médias libres et on prêtera une oreille plus attentive au débat de l'Assemblée mondiale des médias libres. C'était une émission réalisée et animée par Pierre Sarciron et Lison Guignard.
À très bientôt.
À très bientôt. Gonna be free. C'était Les Échos de Tunis, en direct du Forum Social Mondial 2013 de Tunis, avec l'association ATTAC. À bientôt. Yeah.
guerre où on dit non au capital quand il dit la bourse ou la vie. Au multinational, on a le choix, on a des avis. Ils mondialisent le profit, mondialisent les bénéfices au détriment des faibles, pour le sud et tous ses fils. Un autre monde est possible sans la dette et tous ses vices. Les supplices, sacrifices qui nous confinent dans la crise. Un autre monde est possible sans les barricades de Davos. Porto Alegre en est la preuve, dis-le à tous nos gosses.